La conférence du cercle Léon Trotsky d'aujourd'hui porte sur le sujet « La crise actuelle de l'économie capitaliste et ses origines ». L'économie capitaliste continue de s'enfoncer dans la crise. Les annonces officielles du taux de croissance des économies des plus grands pays capitalistes du monde sont si faibles qu'elles flirtent constamment avec la récession quand elles n'ont pas carrément plongé dedans, comme en Espagne. Et cette mesure officielle du taux de croissance est un très mauvais indicateur de la santé économique des pays capitalistes, un indicateur qui fait la part belle à toutes les surévaluations spéculatives. Les annonces de plans de licenciement à la chaîne, dans quasiment toutes les branches, et la hausse continuelle du chômage qui en est la conséquence immédiate, sont une mesure bien plus réelle de la contraction de l'économie. La crise actuelle est le dernier épisode en date d'une crise quasi permanente qui dure depuis près de 40 ans. Depuis plusieurs décennies, l'économie capitaliste est toujours plus noyée dans un océan de liquidités, comme disent les financiers. À chaque krach boursier, la réaction des États a été la même : injecter de la monnaie pour éviter les faillites en chaîne et l'effondrement de l'économie. Krach après krach, la quantité totale d'argent a enflé démesurément sans rapport avec la quantité de richesses produites, alimentant la spéculation et préparant le krach suivant. Des sommes ahurissantes à donner le tournis valsent d'une place financière à l'autre. En un clic de souris, des capitaux peuvent renchérir telle matière première ou étrangler encore un peu plus les finances de tel État. Ces sommes d'argent cherchent frénétiquement à s'investir. Cela est aussi vieux que le capitalisme, et à ce propos, on peut reprendre une phrase de Marx de 1849 sans en changer un mot. Un capitaliste, je cite, n'est jamais aussi malheureux que lorsqu'il ne sait pas quoi faire de son argent. Voilà le secret de toutes les grandes spéculations, de toutes les entreprises profitables. Et à l'époque actuelle, c'est avant tout dans la spéculation et peu dans la production, au regard des profits engrangés, que le capital cherche toujours aussi furieusement à s'investir. Or, quelles que soient les inventions délirantes des savants fous de la finance, il n'y a que dans la production que la richesse se crée. Tous les gains faramineux réalisés dans la spéculation ne proviennent, au bout du compte, que d'un endroit, du profit fait sur le dos des travailleurs dans la production. Voilà pourquoi l'ensemble de l'organisation économique capitaliste s'étouffe dans sa propre graisse financière. D'un côté, il n'y a jamais eu autant d'argent dans l'économie. Et de l'autre, cet argent qui rechigne à s'investir dans le seul endroit où la richesse se crée, la production, la parasite et l'étouffe. Il y a près de 100 ans, Lénine, reprenant un point de vue largement partagé par tous les communistes de l'époque, utilisait le terme d'impérialisme pour caractériser l'économie capitaliste. Il le décrivait comme l'état de sénilité du capitalisme, exprimant ainsi que cette organisation sociale était arrivée au bout du rouleau vis-à-vis de son rôle historique de développement des forces productives. 100 ans après, le capitalisme est toujours là. Alors, par quel soubresaut est-il passé? Quelles contradictions se sont exacerbées? Et aujourd'hui, quelles sont les causes et les conséquences du développement sans limite de la finance? Pour répondre à ces questions, il faut commencer par repartir des analyses de Marx, des crises du capitalisme, et aussi revenir sur une évolution essentielle du capitalisme, celle qui apporta la domination des monopoles et des trusts. L'impérialisme. Sur ce sujet, je passe la parole à Pierre Royan.
Depuis près de 200 ans, l'économie capitaliste connaît régulièrement des crises. Les premières ont surgi en Angleterre, qui était le berceau de la révolution industrielle. Ces crises montraient que l'économie capitaliste, capable de produire des richesses à un rythme que la société n'avait encore jamais vu, pouvait se bloquer, non pas à cause d'une catastrophe naturelle, non pas à cause d'une guerre, mais parce que des marchandises avaient été produites en trop grand nombre. Une des toutes premières crises fut celle de 1819. À cette époque, l'Angleterre inondait déjà le monde de ses produits. Et ce fut à l'échelle mondiale que le trop-plein de marchandises se manifesta. Au Cap, tout au bout de l'Afrique du Sud, ou encore en Inde, à Calcutta, les marchandises anglaises étaient vainement proposées à des prix plus bas qu'en Europe. Aux États-Unis, un contemporain de la crise a raconté dans un de ses récits de voyage ce qu'il a vu. Je le cite. « D'un bout à l'autre de ce continent immense et prospère, aucune ville, aucun bourg où la quantité des marchandises destinées à la vente ne dépassa de manière considérable les moyens des acheteurs. » Et en Angleterre même, cela se traduisit par une misère accrue. En 1820, une adresse des ouvriers bonnetiers de Nottingham, une sorte de pétition de l'époque, disait « Pour un travail quotidien de 14 à 16 heures, nous ne gagnons que 4 à 7 shillings par semaine. Bien que nous soyons obligés de nous contenter de pain et d'eau ou de pommes de terre au sel, nous avons souvent été obligés, après le travail harassant d'une journée, d'envoyer nos enfants affamés au lit pour ne pas les entendre se plaindre et réclamer du pain. Nous déclarons solennellement que pendant les 18 derniers mois, nous n'avons pratiquement jamais eu le sentiment de manger à notre faim. » Lors de la phase d'expansion de l'industrie textile anglaise, qui venait de précéder cette crise, l'exploitation de la classe ouvrière avait été féroce. Mais la crise aggravait encore le sort des travailleurs, provoquant déjà à l'époque le chômage de masse pour les uns et l'exploitation accrue pour les autres. Ces premières crises ébranlèrent les convictions des premiers économistes de l'époque qui avaient vu dans le capitalisme industriel un avènement d'une ère nouvelle, d'enrichissement fabuleux et sans limite. Du début du XIXe siècle jusqu'à nos jours, l'économie capitaliste, par-delà toute son histoire, toutes ses transformations, a toujours connu des crises de surproduction, en moyenne tous les 7 ou 8 ans. Car c'est le mode de fonctionnement même de cette économie d'alterner les périodes d'expansion et les périodes de crise, les premières préparant les secondes et les secondes faisant la place nette pour les suivantes. L'économie capitaliste ne produit pas pour répondre à des besoins. Une économie qui se fixerait comme objectif de maîtriser sa production pour nourrir la population, la loger, l'éduquer, la soigner, la transporter, la cultiver, commencerait d'abord par recenser les besoins. Puis elle coordonnerait la production des différentes branches. Elle la planifierait en gérant l'économie comme un tout, sous le contrôle constant de la population, des choix de celle-ci et de l'évolution de ses choix. Car il ne s'agirait pas seulement de décider de ce qui doit être produit, mais aussi d'en contrôler constamment et démocratiquement l'application. Il pourrait y avoir des surproductions dans telle ou telle branche. On peut même dire que pour éviter la pénurie, il faudrait qu'il y ait quasiment constamment des stocks. Les erreurs de planification seraient inévitables, car on ne peut pas anticiper toutes les évolutions, y compris dans les envies et dans les goûts de la population. Mais ces erreurs seraient rectifiées en essayant au maximum de limiter le gâchis. Dans une telle économie, les producteurs au sens large, c'est-à-dire tous ceux qui participent à la production de biens ou encore aux différents services, seraient aussi les consommateurs. L'économie, propriété collective de l'ensemble de la société, serait maîtrisée par la participation active et les décisions démocratiques de tous. L'économie capitaliste ne fonctionne pas ainsi. Les moyens de production sont la propriété privée d'une minorité qui les gère en fonction d'un seul critère, le profit maximum. C'est une économie de marché fondée sur la concurrence. Dans la recherche du profit, les besoins que cette économie prend en compte, ce sont les besoins solvables, c'est-à-dire de ceux qui peuvent payer. Les autres, les besoins élémentaires d'une large partie de l'humanité, n'intéressent pas ceux qui détiennent les moyens de production et qui décident de leur utilisation. Des centaines de millions d'êtres humains aujourd'hui n'ont pas accès à l'eau potable. 1 milliard de gens souffrent de la faim. Près de 2 milliards n'ont pas accès à l'électricité. Mais les capacités manuelles et intellectuelles de millions de gens servent à produire des choses inutiles pour le plus grand nombre, voire nuisibles. Cela va du yacht toujours plus grand, toujours plus délirant, aux industries d'armement, ou même à la finance. Cette économie de marché, fondée sur la concurrence, n'est pas le fruit d'une organisation consciente et coordonnée, mais le fruit de millions de choix individuels, qui parfois convergent, mais parfois se contredisent, et qui rendent cette économie viscéralement incontrôlable. Mais si cette économie est incontrôlable, il est quand même possible d'en comprendre les ressorts. Au XIXe siècle, partant des premières analyses des économistes bourgeois, mais avec un point de vue de communiste révolutionnaire, Marx étudia l'économie capitaliste pour en expliquer les lois fondamentales. Il étudia d'abord la valeur des marchandises, qui s'établit à travers d'innombrables échanges et apparaît mystérieuse, comme le résultat de la main invisible du marché, comme disaient les premiers économistes. Il montra que cette valeur des marchandises exprimait le rapport social entre les différents producteurs, que derrière cette valeur se reflétait la quantité de travail en moyenne dépensée dans la société pour produire telle ou telle marchandise. Et il en conclut que c'est bien dans la production et nulle part ailleurs que se créaient les richesses. Poursuivant son analyse, Marx a révélé le mécanisme de l'exploitation, en montrant que les profits des capitalistes n'étaient rien d'autre que du travail non payé aux travailleurs, ce qu'il a appelé de la plus-value. Toutes ces explications, le mouvement ouvrier international les a transmises à des millions d'exploités, depuis près de 150 ans, pour démystifier la domination de la bourgeoisie. Ce sont aussi les idées marxistes qui permettent de comprendre les crises cycliques du capitalisme. Pour comprendre la crise, il faut comprendre la phase anarchique d'expansion qui la précède. Les capitalistes investissent leur capital dans la production pour l'accroître, parce qu'ils espèrent en tirer un profit. Et plus ils investiront, plus ils feront produire de marchandises, et plus ils pourront espérer accroître leur capital. Mais ce n'est que si les marchandises se vendent que les capitalistes réalisent leur profit et récupèrent leur capital investi. Et encore faut-il vendre ces marchandises. On pourrait croire que chaque capitaliste connaît son marché, qu'il peut anticiper la demande. Cela peut être vrai dans une certaine mesure. Mais le marché, encore une fois, ce sont des millions d'initiatives individuelles qui se télescopent sans coordination, sans plan d'ensemble, car à la base, il y a la propriété privée des moyens de production et la concurrence. Et la finalité de cette concurrence, c'est de prendre des parts de marché aux autres. Alors ce n'est qu'après coup que les capitalistes savent vraiment s'ils ont trop produit ou trop investi. Ensuite, le marché ne se réduit pas aux seuls biens de consommation. Et la production de la moindre marchandise est le fruit d'une chaîne considérable d'étapes successives où des capitalistes produisent pour d'autres capitalistes. La modification de la demande à un bout implique donc toute une série de modifications en chaîne. Pour produire plus de voitures, par exemple, eh bien, il faut produire plus d'acier, plus de pneus, plus d'électricité, mais il faut aussi plus de machines. Il faut peut-être même construire une nouvelle usine. Il faut donc qu'en amont, tous les capitalistes fournisseurs de ces marchandises aient adapté leur production. Il faut même qu'ils l'aient anticipé. Qu'ils aient anticipé cette hausse de la demande pour pouvoir y répondre dès qu'elle se manifeste. Car s'ils ne le font pas, c'est leur concurrent qui le fera. Or, chacune de ces étapes a son propre rythme de production. Et si ces liens chaotiques entre chaque branche peuvent, au bout du compte, aboutir à un équilibre, cet équilibre n'est que momentané et il est constamment remis en cause. Lors de la phase d'expansion, dans toutes ces branches, imbriquées les unes dans les autres, la course effrénée aux parts de marché se fait sans se soucier de l'ampleur des besoins. La limite à l'augmentation des capacités de production n'est quasiment que la quantité de capital disponible pour être investi. La tendance générale pousse donc chaque capitaliste dans le sens d'un développement maximum de la production. À l'opposé, dans leur recherche de profit maximum, les capitalistes cherchent à comprimer les salaires au minimum. Des salaires ou une masse salariale comprimée, ça signifie plus de profit. Mais les ouvriers sont aussi des consommateurs. Et cette tendance à les payer le moins possible, tôt ou tard, entre en contradiction avec la tendance à produire toujours plus. Comme Marx l'a résumé, je le cite, « La raison dernière de toutes les véritables crises reste toujours la pauvreté et la limite imposée à la consommation des masses. » Contrairement à la tendance qui pousse d'autre part la production capitaliste à développer les forces productives, comme si la limite de cette dernière résidait dans le pouvoir absolu de consommation de la société. Lorsque les marchandises n'arrivent plus à se vendre, c'est ce qu'on appelle la surproduction. il y a quelque chose de choquant dans l'expression elle-même. Car elle ne signifie absolument pas qu'on a trop produit de marchandises, construit trop de logements, produit trop de voitures ou d'autres objets d'usage courant. Cela signifie qu'on a produit plus que ce qu'on pouvait vendre. Et ce n'est pas du tout la même chose. Je reviendrai plus tard dans l'exposé sur la crise de 2008, qui était à ses origines une crise de l'immobilier. Mais on peut mentionner qu'au moment même où on parlait de surproduction de logements dans cette très riche Amérique, il y avait des gens qui vivaient dans des taudis infâmes, sans parler même de ceux qui n'avaient que la rue pour domicile. Cette surproduction a des conséquences sur les entreprises qui ont trop produit. Elle entraîne leur faillite, mais aussi celle de leurs fournisseurs, que ces entreprises ne peuvent pas rembourser, et ainsi de suite. De proche en proche, toute l'économie se paralyse. Tout est là pour qu'elle tourne et fonctionne. Les hommes, les machines, les marchandises. Les besoins réels sont énormes. Mais le moteur de l'économie, la soif de profit, ne trouve pas de voie de sortie. Alors, dans le cadre du capitalisme de la libre concurrence, c'est la crise elle-même qui sort l'économie de l'ornière, en écartant les entreprises les moins rentables et a priori les moins modernes. Ces entreprises font faillite en premier. Et débarrassées de ces entreprises, l'économie repart sur une base plus moderne, capable de produire des marchandises à un coût plus faible. Et surtout, dans toutes les branches et à tous les niveaux, sur ces innombrables marchés où des capitalistes vendent à d'autres capitalistes, les équilibres se rétablissent. Tout au long du XIXe siècle, ces crises de surproduction se répétèrent ainsi et jouèrent le rôle de régulateur de l'économie. C'était une régulation catastrophique et brutale, mais c'était la seule régulation que l'économie capitaliste connaissait. Les choses commencèrent à changer avec l'apparition des monopoles. Durant ce XIXe siècle, l'industrialisation s'était propagée d'Angleterre au continent européen, aux États-Unis, puis au Japon. Et dans tous ces pays, crise après crise, se constituèrent des entreprises toujours plus grosses, toujours plus puissantes. Au point qu'à la fin du XIXe siècle, dans les principales branches de l'économie, des Rockefeller, des Krupp, des De Vendel, des Rothschild, se retrouvèrent à la tête d'entreprises géantes du pétrole, de l'acier, de l'extraction minière, des chemins de fer ou du tabac. Et par entente, ces entreprises formèrent les premiers regroupements capables de dominer une branche de l'économie, les premiers cartels, les premiers trusts. Ces grands groupes étaient désormais suffisamment puissants pour s'entendre afin de fixer les prix. Ils pouvaient même aller plus loin dans l'entente et se répartir le marché à l'avance, le contingenter, comme on dit. Ces ententes ne supprimèrent pas la concurrence, ni celle entre capitalistes d'une même branche, ni celle entre capitalistes de branches adjacentes, comme le charbon et le pétrole, par exemple, et encore moins la concurrence fondamentale entre tous les capitalistes pour drainer le maximum de plus-value produite par la classe ouvrière. Les ententes étaient fluctuantes. Un accord pouvait être rompu du jour au lendemain. Les alliés de la veille pouvaient devenir les pires ennemis. Mais les monopoles étaient devenus des poids lourds, drainant une part sans cesse croissante de la plus-value et pesant toujours plus sur la marge de l'économie. Dans les pays de développement capitaliste les plus récents, comme l'Allemagne, les États-Unis ou un peu plus tard le Japon, c'est même l'État qui organisa à marche accélérée la constitution des monopoles. Entre autres, en protégeant le marché national par de très hautes barrières douanières, qui d'ailleurs se généralisèrent à tout le monde capitaliste. Les hauts tarifs douaniers permettaient aux monopoles de vendre plus cher sur leur propre marché, sans trop craindre la concurrence des monopoles des autres pays capitalistes, et d'accumuler ainsi des profits considérables. En retour, ces surprofits leur permettaient d'exporter leurs produits en abaissant leurs prix pour essayer d'être concurrentiels malgré les barrières douanières des autres pays. Ainsi, à la fin du XIXe siècle, malgré les droits de douane importants qui s'étaient dressés partout, le commerce international se développa comme jamais auparavant. Au bout du compte, les barrières douanières étaient un cadeau aux monopoles, au détriment des autres branches de l'économie sans monopole. Le taux de profit des secteurs dominés par ces grands groupes s'éleva au détriment des autres secteurs qui virent, eux, leur taux de profit baisser. La domination des monopoles entraîna également le développement de la finance. Car pour produire à grande échelle, il faut pouvoir disposer du capital le plus considérable possible. Dans la course au gigantisme industriel, se développèrent d'abord les sociétés par actions. Celles-ci permettaient à un capitaliste de contrôler un capital total nettement plus important que celui dont il disposait au départ, en utilisant l'argent de petits ou de moyens actionnaires. Et puis, les banques se trouvèrent de plus en plus au cœur de l'économie. Depuis le début du capitalisme, les banques centralisent le capital disponible. D'un côté, elles prêtent aux capitalistes qui ont un besoin urgent de capital pour leur affaire. De l'autre, elles empruntent à ceux qui cherchent tout aussi urgemment un placement pour leur capital excédentaire. Les banques aussi un autre rôle. Elles jouent le rôle de collecter l'épargne des classes non capitalistes de la société, comme les petits paysans, les petits commerçants, et même certaines couches de la classe ouvrière, pour mettre tout cet argent à la disposition des capitalistes. Comme le capital industriel, le capital bancaire se concentra. Dans chaque pays industrialisé, la gestion du capital national fut peu à peu concentrée dans les mains d'un nombre réduit de très grandes banques. Au début du XIXe siècle, peu avant la Première Guerre mondiale, 5 très grandes banques en Angleterre, 3 en France, 9 en Allemagne, 5 au Japon et quelques dizaines aux États-Unis dominaient la moitié du capital mondial. Entre ces très grandes banques et les monopoles industriels, se créa un enchevêtrement de liens d'intérêt. Les disponibilités de capital des banques alimentaient les besoins d'investissement des industriels. Et ces derniers partageaient avec les banques le profit réalisé dans la production. Les banques devinrent également le cadre à l'intérieur duquel se constituaient les ententes monopolistiques. Cela donna naissance à la finance moderne, au capital financier, pour reprendre les termes qu'utilisèrent les communistes de l'époque pour qualifier cette communauté d'intérêts entre grandes banques et grands groupes industriels. Cette tendance à la concentration n'a jamais cessé. C'est un nombre toujours plus réduit de banques qui domine le monde, auxquels sont liés des groupes industriels en nombre toujours plus restreint et tous toujours plus puissants. Cette apparition des monopoles eut des conséquences sur la marche de l'économie capitaliste. Les monopoles étaient en situation d'adapter leur production au marché solvable. Cela ne veut pas dire qu'ils organisaient et développaient la production en fonction des besoins réels de la société. Au contraire, ils limitèrent leur production à ce que le marché pouvait absorber en vue de faire le maximum de profit. C'est ce qu'on appela une politique malthusienne. Au lieu de développer les forces productives, les monopoles les bridèrent pour gonfler leurs bénéfices. Cette tendance à réduire les investissements productifs les obligea à trouver d'autres débouchés pour leurs capitaux, et ces capitaux s'accumulaient sans cesse. Les monopoles les cherchèrent alors hors de leurs frontières. Dès la fin du XIXe siècle, les capitaux s'investirent aux quatre coins de la planète. Ils y exploitèrent des mines pour rapporter des matières premières vers les métropoles. Ils construisirent des ports et des chemins de fer pour cela. Ils s'investirent en Russie, dans la Russie tsariste, dans l'extraction du pétrole et dans le textile. Ils s'approprièrent des régions entières sur tous les continents, balayèrent l'agriculture qui faisait vivre les peuples depuis des générations et implantèrent les cultures des produits qui les intéressaient pour le marché de leur métropole. Les capitalistes français et anglais, par exemple, implantèrent le cacao et l'arachide en Afrique, le caoutchouc en Indochine. Ces capitaux exportés faisaient naître une industrie et une nouvelle classe ouvrière dans de nombreux pays. Mais ils n'enrichissaient pas ces pays, ils les pillaient. Car les investissements étaient avant tout orientés en direction des besoins des métropoles. Et les fruits de l'exploitation, des travailleurs locaux, profitaient d'abord aux grands groupes monopolistiques occidentaux. Pour s'assurer un contrôle de toutes ces régions où ils investissaient, les capitalistes entraînèrent leur État. Ils les entraînèrent dans la conquête coloniale. Il fallait conquérir le maximum de territoire, ne serait-ce que pour limiter la prétention des concurrents. La diplomatie des grandes puissances eut alors pour principale fonction de représenter les intérêts du capital financier qui cherchait des champs d'investissement aux quatre coins du monde. En 1916, faisant le bilan de tout ce développement historique et de la rivalité des monopoles, Lénine écrivait « L'impérialisme et le capitalisme arrivaient à un stade de développement où s'est affirmée la domination des monopoles et du capital financier, où l'exportation des capitaux a acquis une importance de premier plan, où le partage du monde a commencé entre les trusts internationaux et où s'est achevé le partage de tout le territoire du globe entre les plus grands pays capitalistes. Depuis ses débuts, l'histoire du développement capitaliste s'était réalisée dans le cadre des États nationaux. C'était sur la base d'un marché national que chaque capitaliste avait pu s'enrichir et se renforcer. C'était sur la base d'un marché national que s'étaient mis en place les monopoles. À la fin du XIXe siècle, ces marchés nationaux étaient arrivés à saturation. Dans chacune des nations capitalistes, les capitaux ne trouvaient plus de débouchés aussi rentables qu'avant. Ils avaient trouvé de l'oxygène en s'exportant, et cette exportation de capitaux avait été organisée par les États qui avaient constitué des empires coloniaux. Mais dans cette course aux colonies, les vieux impérialismes, les premières enseignes, l'Angleterre, la France, s'étaient taillés la part du lion, en se partageant presque toute l'Afrique et une bonne partie de l'Asie. L'Allemagne et le Japon, impérialisme plus récent, se retrouvèrent quasiment exclus du partage. Les États-Unis, eux, étaient un peu à part, car ils avaient toute l'étendue de leur territoire comme base de développement, ce qui était déjà considérable, et en plus, ils s'étaient annexés tous les marchés d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud. Or, le développement économique avait inversé le rapport de force. L'Allemagne, les États-Unis et le Japon avaient développé leur industrie à un rythme accéléré, à partir de la technologie la plus récente. Ils avaient l'industrie la plus puissante et cherchaient des débouchés pour leurs capitaux. Au cours des années qui précédèrent la Première Guerre mondiale, les rivalités économiques entre nations impérialistes ne firent que s'accentuer. Et leur prolongement brutal fut la guerre, qui éclata en août 1914. À partir de ce moment, l'économie mondiale sombra dans une période de convulsion qui dura quasiment 20 ans. La Première Guerre mondiale ne régla rien des antagonismes et des rivalités impérialistes. Elle se solda par la victoire des impérialismes anglais et français, qui étaient déjà les plus repus en colonie. L'impérialisme allemand, lui, défait, fut dépossédé du peu de colonies qu'il avait. Les rivalités impérialistes continuèrent de bloquer le développement économique. En 1921, à l'occasion du 3e congrès de l'Internationale communiste, qui rassemblait les partis communistes du monde entier, Léon Trotsky fit un rapport sur l'état de l'économie capitaliste mondiale. Voici un court extrait. Le capitalisme vit de crise et de redressement, tout comme vit l'homme, en aspirant et en expirant tour à tour. Les crises et les améliorations sont propres au capitalisme dès le jour de sa naissance et elles l'accompagneront jusqu'à la tombe. Mais pour définir l'âge du capitalisme et son état général, pour pouvoir se rendre compte s'il se développe, s'il atteint son âge mûr ou bien s'il touche à sa fin, il faut d'abord analyser le caractère des cycles en question, tout comme on juge de l'état de l'organisme humain d'après la façon dont il respire, tranquillement ou en haletant, profondément ou avec peine. À partir de la guerre, Trotsky considérait que le capitalisme était entré dans une période de décadence, où, je le cite, « les crises durent longtemps et les relèvements sont momentanés, superficiels et basés sur la spéculation ». Les cycles du capitalisme se poursuivirent entre les deux guerres, dans un contexte économique bourré d'oppositions explosives. Il y eut bien une phase d'expansion, entre 1922 et 1929, essentiellement aux États-Unis, qui était alors le seul impérialisme encore capable de développer les forces productives. Mais cette phase d'expansion fut momentanée, superficielle et basée sur la spéculation, comme disait Trotsky. La crise économique qui éclata après, celle de 1929, est la plus connue des crises du capitalisme, car elle fut exceptionnellement dévastatrice. Partie des États-Unis, elle provoqua un recul de la production et une explosion de misère comme le monde n'en avait jamais connue. À cette époque, une partie de la planète échappait à la domination capitaliste, l'URSS. Et dans ces années d'effondrement économique généralisé, alors que la production industrielle était divisée par deux aux États-Unis, l'URSS fut le seul endroit au monde épargné par la crise. Entre 1929 et 1935, la production industrielle soviétique fut même multipliée par 3,5. L'économie soviétique était loin d'avoir atteint le niveau de développement de pays comme les États-Unis. Et isolée, elle ne pouvait pas rattraper son retard. Mais son existence même était la démonstration qu'il était possible d'échapper aux crises du capitalisme. À une condition, il fallait exproprier la bourgeoisie et planifier l'économie. La crise de 1929 exacerba de nouveau toutes les rivalités, à un point tel que de l'affrontement économique, le monde bascula dans un nouvel affrontement militaire et plongea dans la Deuxième Guerre mondiale. Durant la période de l'entre-deux-guerres, de nombreuses luttes de la classe ouvrière secouèrent le capitalisme. C'est par ces luttes, si elles avaient été victorieuses, que la société aurait pu vraiment résoudre les contradictions et les aberrations de l'organisation économique capitaliste. Leur échec a laissé la voie libre à la guerre. Et la guerre a permis au capitalisme de se survivre, de passer un cap, pourrait-on dire, mais sans réellement dépasser ses contradictions fondamentales. Et le prix à payer pour l'humanité fut colossal. La Deuxième Guerre mondiale modifia radicalement les rapports de force entre les différents impérialismes. L'Europe exsangue, l'impérialisme américain sortait grand vainqueur. Son économie était la plus moderne. Elle était adossée à un marché continental. Et ses rivaux les plus menaçants, l'Allemagne et le Japon, avaient été écrasés. Les rivalités entre grandes puissances se résolvaient, au moins temporairement, par la domination incontestée de l'une d'entre elles, les États-Unis. L'hégémonie économique des États-Unis les poussait naturellement vers la domination du marché mondial. Et de ce point de vue, ils avaient tout intérêt à la fin des empires coloniaux, qui étaient des chasses gardées des vieux impérialismes européens. Ainsi, dès la fin de la guerre, lorsqu'une puissante vague d'émancipation secoua les colonies, les États-Unis ne s'y opposèrent pas et surfèrent dessus. Au fur et à mesure des luttes d'indépendance, les zones d'influence de chaque impérialisme volèrent en éclats. Et les ex-colonies, formellement indépendantes, ne pouvant échapper au pillage capitaliste, devinrent alors un marché ouvert à tous les impérialismes, à commencer au plus puissant d'entre eux, l'impérialisme américain. Sous la domination des États-Unis, s'organisa la reconstruction. Il fallait remettre en route les appareils productifs, relancer les échanges commerciaux internationaux et leur donner un cadre monétaire. À partir de cette nouvelle donne, l'économie capitaliste se redéveloppa. Mais cela ne se serait jamais réalisé si les États n'étaient pas intervenus directement dans l'économie. Le capitalisme industriel français est à ce titre un exemple tout à fait parlant. À cause d'un marché national réduit et à cause de la vétusteté du matériel de production que les capitalistes avaient usé jusqu'à la corde, au sortir de la guerre, le taux de profit était tombé très très bas. Et pour les branches dont la production était essentielle au redémarrage de l'économie et qui demandaient de très gros investissements sur le long terme, aucun capitaliste n'était prêt à mettre la main à la poche. Alors ce fut l'État qui s'en chargea, en nationalisant des branches entières de l'économie. Les mines de charbon du Nord et du Pas-de-Calais furent nationalisées en décembre 1944. Le transport aérien en septembre 1945. Une partie de l'industrie automobile avec Renault en 1945 aussi. La Banque de France, responsable de l'émission du franc, ainsi que les principales banques de dépôt, comme le Crédit Lyonnais, la Société Générale, ou encore la Banque Nationale pour le Commerce et l'Industrie, qui donnera plus tard la BNP, furent nationalisées en 1945, le gaz et l'électricité en 1946. Il ne s'agissait pas d'expropriation. L'État versa aux capitalistes de quoi largement aller investir ailleurs, là où les profits étaient juteux et assurés. On estime le coût total de l'ensemble des nationalisations à 6 000 milliards de francs de l'époque. Pour comparaison, la dette de l'État français en 1945 était de 1 800 milliards de francs. D'un côté, l'État prenait en charge toutes les branches déficitaires. De l'autre, la bourgeoisie, s'appuyant sur cette béquille étatique, rebâtissait ses empires industriels. Marcel Boussac, industriel du textile, le roi des cotonnades, paraît-il, avait construit sa fortune d'abord comme fournisseur de l'armée française pendant la guerre 14-18, puis celle de 39-40. Il fut aussi fournisseur de l'armée allemande. Il avait des plantations aux quatre coins de l'Empire colonial français. Après la guerre, loin d'être inquiété, il reçut une aide financière importante de l'État pour moderniser ses usines en achetant des machines à tisser dernier cri aux États-Unis. Sa richesse croissante fit de lui un temps la plus grosse fortune d'Europe. L'avionneur de l'entre-deux-guerres, Marcel Bloch, est lui aussi emblématique de cet enrichissement grâce à l'État. Après avoir survécu à 9 mois de camp de concentration, il revint en France, changea de nom, devint Marcel Dassault. Il reprit une partie de ses usines. En 1949, l'État français distribua les rôles. Pour les entreprises nationalisées, comme Sud Aviation, Nord Aviation, qui donneront plus tard Airbus et EADS, le secteur concurrentiel de l'aviation civile. Et pour Marcel Dassault, le secteur ultra-protégé de l'aéronautique militaire. Les guerres coloniales furent un de ses premiers marchés. Il fit de très bonnes affaires en vendant à l'armée des avions de transport de troupes. Il faut aussi mentionner Francis Bouygues. Dans les années 60, il développa son entreprise du BTP grâce au marché des logements sociaux commandés par l'État. Il en recevait la commande de 15 000 par an. Son premier gros coup fut la construction du Parc des Princes à Paris. Pour évincer ses concurrents, il présenta un projet beaucoup moins cher. Et une fois le contrat obtenu, il dénonça les termes de l'appel d'offres pour au final se faire payer le double du prix. Les grands groupes industriels et financiers qui se développèrent ainsi, en s'appuyant sur l'État, se retrouvèrent quasiment immédiatement en position de monopole. Et tout naturellement, comme au premier temps de l'impérialisme, l'État les aida à exporter leurs marchandises et leur capital à l'étranger. Fin des années 60, début des années 70, Dassault vendait ses avions Mirage 4 partout dans le monde et Bouygues construisait son premier complexe à l'étranger, le complexe olympique de Téhéran en Iran, en vue des Jeux olympiques asiatiques de 1974. Les États nationaux servaient de béquille à leur capitalisme. Mais derrière eux, à l'échelle internationale, il y avait l'État américain, qui finançait la reconstruction, avec le plan Marshall par exemple, et qui garantissait le système monétaire international. Pour que les échanges internationaux reprennent, il fallait que les monnaies soient suffisamment stables les unes par rapport aux autres. Un système monétaire stable était essentiel à la reconstruction. La monnaie permet de fluidifier les échanges et permet que les marchandises puissent facilement s'évaluer les unes par rapport aux autres. C'est vrai pour tous les échanges, à l'échelle nationale comme à l'échelle internationale. Dans l'histoire des échanges commerciaux, les premières monnaies furent d'abord des marchandises, comme les autres, simplement un peu plus recherchées que les autres. Ce furent rapidement les métaux précieux comme l'or qui s'imposèrent. Avec le capitalisme industriel, l'argent eut un rôle sans cesse accru, au point que se fit ressentir le besoin de nouveaux types de monnaies, qui petit à petit prirent la place des métaux précieux. La monnaie de papier et sa représentation encore plus abstraite, la monnaie scripturale, c'est-à-dire les comptes en banque. Derrière ces papiers, derrière ces billets de banque, ou encore derrière les lignes de compte représentant un avoir dans une banque, il y a toujours un organisme, et au bout du compte même un État, qui garantit la valeur du bout de papier ou du compte immatériel. Au départ, les choses se passèrent un peu comme si ces organismes avaient échangé toutes les pièces d'or qui circulaient dans la société contre cette nouvelle monnaie abstraite et garantissaient qu'à n'importe quel moment, n'importe qui pouvait venir récupérer sa quantité d'or correspondante à la valeur de ses billets ou de son compte en banque. C'est un peu ainsi, en tout cas, que dans les pays capitalistes, la monnaie nationale fonctionna jusqu'en 1914. À l'échelle internationale, c'était l'or qui jouait le rôle de monnaie. Chaque monnaie était convertible en or. Chaque bout de papier ou compte en banque correspondait à une certaine quantité d'or et donc pouvait raisonnablement la représenter dans les échanges. La quantité de monnaie nécessaire au fonctionnement de l'économie est fonction de la quantité et de la vitesse des échanges de marchandises, c'est-à-dire au bout du compte de la quantité de richesses produites. Plus on produit de richesses et plus il faut de la monnaie. Il faut qu'en face de toutes les marchandises qui s'échangent, il y ait de la monnaie en quantité suffisante. La valeur de la monnaie papier ou scripturale ne se trouve que dans la garantie de l'organisme qui l'émet, et en définitive dans l'autorité de l'État. Derrière le billet de banque, il y a le gendarme, qui peut imposer l'usage d'une monnaie, en définir le cours, et qui fait la chasse aux faux-monnayeurs. En tant que garant, en dernier sort de la monnaie, l'État est aussi celui qui l'émet. Et il a donc toujours eu la tentation de financer ses dépenses, que ce soit ses dépenses fastueuses ou ses guerres, en émettant la monnaie dont il avait besoin. Au Moyen-Âge, par exemple, le roi de France Philippe le Bel avait suscité la haine de tous les marchands d'Europe parce qu'il faisait rogner le pourtour de ses pièces d'or émises dans ses ateliers royaux pour en fondre un petit peu plus. Avec la monnaie de papier et la monnaie scripturale, un nouveau champ infini s'ouvrait aux États pour créer de la monnaie à partir de rien. Et l'État put devenir de fait le premier faux-monnayeur. Mais toute la puissance d'un État ne peut pas aller contre les lois de l'économie. Et si un État émet trop de monnaie, l'économie se venge. La monnaie se déprécie et c'est l'inflation. La convertibilité des monnaies avec l'or était une sorte de garde-fou pour les États. Elle leur imposait une certaine rigueur. S'ils émettaient trop de monnaie papier par rapport aux besoins de l'économie, les excédents risquaient de leur revenir pour être échangés contre l'or. Faire tourner inconsidérément la planche à billets, comme on disait, cela signifiait prendre le risque de voir fondre le stock d'or de l'État. Mais la domination des monopoles sur l'économie développa le recours aux dépenses d'État. Pour soutenir les profits des monopoles, les États eurent de plus en plus recours à la planche à billets. Et quand la Première Guerre mondiale éclata, avec ses dépenses d'armement gigantesques, les monnaies se déprécièrent, l'inflation devint galopante et les États européens durent tous suspendre la convertibilité de leur monnaie avec l'or. La crise de 1929 et la Deuxième Guerre mondiale n'améliorèrent absolument pas les choses. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, seuls les États-Unis avaient encore la capacité d'indexer leur monnaie sur l'or. Alors, dans le cadre d'accords internationaux, dits de Bretton Woods, qui était la petite ville aux États-Unis où ces accords furent ratifiés en 1944, le dollar devint la monnaie internationale et la seule monnaie convertible en or à 35 dollars l'once. Une once d'or, c'est 31,1 grammes. Les autres monnaies des États capitalistes n'étaient plus définies par rapport à l'or, mais par rapport au dollar. Et un nouvel organisme, largement soutenu et piloté par les États-Unis, le Fonds monétaire international, qui était capable de fournir des crédits en cas de besoin, joua le rôle d'autorité internationale qui veillait au taux de change fixe des monnaies vis-à-vis du dollar. Le système de Bretton Woods n'empêcha pas les États de recourir à la planche à billets. L'État français, par exemple, ne se gêna pas. C'est en faisant tourner la planche à billets qu'il soutenait les trusts nationaux. Et cela revenait à faire payer les couches populaires, qui, elles, voyaient fondre leur pouvoir d'achat à cause de l'inflation. Au niveau international, ces poussées inflationnistes obligeaient l'État français à reconnaître que sa monnaie s'était dépréciée et l'obligeaient à dévaluer le franc par rapport au dollar. Les États-Unis aussi firent largement marcher la planche à billets, nous y reviendrons. Mais globalement, ce système stabilisa les échanges internationaux, ce qui était essentiel pour le redémarrage de l'économie mondiale. Les États-Unis, possédant une économie capable de produire pour la planète, ils poussèrent à l'abaissement des barrières douanières entre États. Même si les vieilles puissances capitalistes se cramponnèrent à leurs tarifs douaniers pour réserver leurs marchés nationaux à leurs trusts, La tendance allait cependant dans le sens de l'élargissement des marchés et de leur mondialisation, car il était crucial pour ces trusts que se reconstitue un marché pour suppléer à la fin des marchés coloniaux. C'est pour cette raison, par ailleurs, que commencèrent les tractations entre puissances européennes pour abaisser les droits de douane les unes vis-à-vis des autres et créer un marché européen pour leurs trusts. Voilà quel fut le cadre général du redéveloppement de l'économie après-guerre. Mais au fil des années de reconstruction, au fil des cycles d'expansion et de crise, car il y en eut, l'économie capitaliste mondiale avançait vers une nouvelle saturation. De nouveau, les capitaux des trusts ne trouvèrent plus dans la production de débouchés aussi rentables qu'avant. Le premier signe du revirement économique fut la diminution des investissements productifs des entreprises américaines dès la fin des années 60. La deuxième manifestation fut beaucoup plus spectaculaire. Le 15 août 1971, sous la pression des spéculateurs, le président des États-Unis de l'époque, Richard Nixon, annonça la fin de la convertibilité du dollar avec l'or. Ce fut le début d'un chaos monétaire mondial qui déclencha la crise des années 70. Dans le système de change à parité fixe de Bretton Woods, chaque État était sous la surveillance constante des autres, qui ne voulaient pas se faire voler dans les échanges internationaux. Les dévaluations étaient la reconnaissance officielle qu'un État avait abusé de la planche à billets. Mais cela ouvrait du coup un champ de spéculation énorme, car il n'était pas bien difficile pour les financiers d'anticiper les dévaluations des monnaies les plus faibles. Et c'est la spéculation contre le dollar qui fit exploser le système de Bretton Woods. Pour financer les prêts de la reconstruction, qui leur revenaient sous forme de commandes pour leur industrie, les États-Unis avaient déversé dans l'économie américaine et dans l'économie mondiale toujours plus de dollars. Aux États-Unis, l'inflation était quasiment continuelle. Le système de Bretton Woods avait un avantage immense pour eux, car il leur permettait d'exporter leur inflation vers tous les pays qui, contraints de garder des réserves de dollars pour les échanges internationaux, voyaient la valeur de leurs réserves diminuer. Mais ce faisant, les États-Unis contribuaient aussi à décrédibiliser leur propre monnaie et à prêter le flanc à la spéculation contre le dollar. D'autres monnaies devenaient concurrentielles comme réserve de change, comme le Deutsche Mark ou le Yen. D'autant plus que les États-Unis n'étaient pas les seuls à fabriquer des dollars. Toutes les grandes banques capitalistes européennes avaient accumulé des dollars dans leurs comptes au fur et à mesure de la reconstruction. Et elles pouvaient, elles aussi, prêter des dollars, émettre des crédits en dollars. Ces crédits, émis par des banques non américaines, donc qui échappaient au contrôle de l'État américain, furent appelés les euro-dollars. Ils vinrent encore augmenter la masse de billets verts dans laquelle baignait déjà toute l'économie. Le coup de grâce fut le financement de la guerre du Vietnam, à la fin des années 60, elle aussi par la planche à billets. La spéculation contre le dollar fut alors irrésistible. Le trop-plein de dollars fit chuter sa valeur, le faisant tomber bien au-dessous des 35 dollars l'once de Bretton Woods. Le risque pour les États-Unis était de voir les banques centrales étrangères demander d'échanger leurs dollars contre de l'or, et cela devenait critique. La solution fut donc de renoncer à la règle de la convertibilité. L'annonce de la fin de la règle de convertibilité du dollar avec l'or attisa encore la spéculation, et après quelques tentatives de replâtrage du système monétaire international, il fut définitivement abandonné en mars 1973. Toutes les monnaies flottèrent les unes par rapport aux autres, uniquement en fonction de l'offre et de la demande. La fin du système monétaire de Bretton Woods soulignait que tout le développement économique de l'après-guerre s'était fait sous la perfusion des interventions étatiques continuelles, à commencer par celle des États-Unis. Les États avaient soutenu leur trust en faisant toujours plus tourner la planche à billets. En même temps, cela signifiait que ces mêmes États renonçaient dorénavant au moindre garde-fou monétaire, aussi minime soit-il, pour essayer de maîtriser l'émission d'argent. Et cela annonçait la financiarisation de l'économie. Mais avant cela, et même juste avant que la crise des années 70 qui couvait n'éclate, les multinationales du pétrole prirent la main. Et c'est leur intervention qui fut le déclencheur catastrophique de la crise. considérablement renforcés durant les années d'après-guerre, les trusts du pétrole constituaient un cartel d'une puissance encore jamais vue. Les Sept Sœurs, comme on les appelait, étaient cinq compagnies américaines issues du trust de Rockefeller, Esson, Chevron, Texaco, Mobil et Gulf Oil. Une était anglaise, BP, et une anglo-néerlandaise, Shell. Durant des années, elles avaient arrosé l'économie mondiale de pétrole bon marché pour évincer la concurrence des autres sources énergétiques comme le charbon. Bien qu'extrêmement puissantes, elles ne pouvaient pas empêcher la crise économique qui s'annonçait. Elles ne pouvaient rien faire contre la contraction des marchés. Mais elles l'anticipèrent pour rafler la mise. Se rendant compte que la baisse des investissements et la crise monétaire annonçaient une récession d'ampleur, ces sept entreprises firent le choix de réduire leurs investissements pour anticiper la baisse de la demande, à un point tel que cela ferait monter les prix. Elles vendraient moins, mais plus cher, beaucoup plus cher. Cette attitude malthusienne de réduire la production par avance est typique des monopoles lorsque la crise approche. C'est justement leur arme de pouvoir jouer sur les prix et faire payer aux autres branches de l'économie un taux de profit supérieur à la moyenne. Là, ce fut d'une ampleur historique. Cette politique fut décidée dès 1971, avec la complicité de l'État américain, qui lança l'année suivante une campagne sur la pénurie énergétique à venir, suivie d'ailleurs par tous les grands pays, les grands États capitalistes. Pour le grand public, la responsabilité de l'augmentation brutale des prix du pétrole revient aux pays producteurs, via l'OPEP, l'Organisation des pays producteurs de pétrole, qui annonça cette augmentation brutale en 1973. En réalité, l'OPEP était en étroite relation avec les Sept Sœurs et sous leur coupe. Les prix du pétrole furent multipliés par 4. Les profits déclarés des Sept Sœurs augmentèrent de 54% en 1973, puis de 67% en 1974. Leur taux de profit, qui s'élevait en moyenne à 11% sur la période, sur les 10 années qui précédaient, passa à 19% en 1974. Cette attitude des multinationales du pétrole préfigurait la politique que les monopoles des autres branches appliquèrent eux aussi par la suite. Contingenter et limiter la production pour empêcher leur taux de profit de baisser, voire le faire remonter. Mais cette politique fut en elle-même une cause majeure de l'aggravation de la crise. Car l'augmentation des prix du pétrole, outre son impact sur les couches populaires, heurta de plein fouet bon nombre d'entreprises qui virent leurs factures énergétiques exploser. La crise économique éclata aux États-Unis en 1974, puis se propagea l'année suivante au reste du monde. Elle fut générale, brutale et profonde. La production recula à tous les niveaux, aux États-Unis, dans tous les pays impérialistes et à l'échelle mondiale. La réponse des États à cette crise, la plus profonde à l'époque, depuis 1929, fut d'inonder d'argent les canaux financiers. Pour soutenir les banques et les grands groupes industriels au bord de la faillite, l'argent public coula à flot. Les États s'endettèrent et firent marcher la planche à billets sans retenue, ce qui entraîna une poussée fiévreuse de l'inflation. Sur le coup, le remède empêcha l'économie de plonger dans une crise encore plus grave. Mais il ne résolvait rien. La brutalité de la crise était l'expression que le cadre du développement économique de l'après-guerre avait atteint ses limites. Et en empêchant la crise économique d'aller jusqu'au bout, l'intervention des États l'empêchait de jouer son rôle régulateur, celui de purger l'économie des entreprises les moins productives. Et ce n'était pas la petite entreprise qui profitait de l'intervention de l'État. C'était le trust capable d'user jusqu'à la corde ses machines vétustes et de vendre très cher. Par contre, cela n'empêcha pas ces grands groupes de licenciés et les petites entreprises de faire faillite. En France, le chômage qui ne dépassa pas officiellement les 500 000 travailleurs avant 1974 bondit à 840 000 en 1975 et dépassa le million en 1977. L'économie mondiale entrait dans une situation de crise généralisée, caractérisée par la réticence des capitalistes à investir dans la production et par un chômage de masse. Or, à cause de l'intervention des États, la quantité de capitaux disponibles avait encore grossi. Où allaient donc s'investir ces capitaux qui évitaient la production ? Où allaient trouver à se placer les eurodollars, les pétrodollars tirés de l'augmentation des prix du pétrole et toute la monnaie que les États venaient d'injecter ? D'abord, les capitalistes prêtèrent aux États, en commençant par ceux des pays du tiers-monde. Puis, ils poussèrent les États à priver les entreprises publiques plus profitables. Et surtout, la sphère des placements financiers en tout genre se développa sans limite. Cherchant d'abord des investissements ailleurs que dans leur branche de production, les capitaux se sont d'abord dirigés vers les pays pauvres, en se transformant en prêts aux États. Entre 1970 et 1982, la dette de l'ensemble des pays du tiers-monde a été multipliée par 10. Même si ces sommes avaient été prêtées pour servir au développement, cela aurait été du pillage, car l'argent prêté est revenu en commande à des groupes industriels occidentaux et les populations ont été rackettées pour payer les intérêts de la dette. Mais en plus, dans l'immense majorité des cas, ces prêts ont servi à acheter des armes ou encore ont été utilisés pour des dépenses délirantes, comme par exemple la construction de la réplique de Saint-Pierre de Rome à Yamoussoukro, le village du dictateur ivoirien Fouet-Boigny. Cette exportation de capitaux vers les pays pauvres fut par bien des aspects encore plus parasitaire que celle qui avait précédé 1914. Bien des fois, rien de tangible ne fut construit, et ces pays furent quasiment immédiatement pris dans la spirale du surendettement. Pour éviter les conséquences financières d'une faillite d'un pays pauvre, le Fonds monétaire international, cet organisme qui avait été mis en place en 1944 à Bretton Woods, se recycla. Il se transforma en banquier d'urgence pour rembourser les créanciers occidentaux, ainsi qu'en huissier de ces créanciers pour imposer des cures d'austérité féroces aux populations. Les injonctions du FMI furent toujours les mêmes. Suppression des subventions aux produits de première nécessité, réduction des dépenses de santé ou d'éducation, production agricole tout entière tournée vers l'exportation, comme le café, le coton, le cacao, l'arachide ou le thé, plutôt que vers des cultures vivrières qui nourrissent les populations. Ces plans dévastateurs saignèrent des continents entiers, comme l'Afrique. La pauvreté qui y reculait au début des années 70 repartit fortement à la hausse. Dans les pays impérialistes, entre 1980 et 1982, l'économie mondiale connut de nouveau un recul de la production et un fort accroissement du chômage. En France, il dépassa officiellement la barre des 2 millions en 1982. Cette aggravation persistante du chômage fut, et continue d'être, une arme redoutable dans les mains du patronat, car elle pèse sur les travailleurs comme un puissant frein aux luttes collectives. Cette arme permit à la bourgeoisie de réorganiser la production en réduisant les effectifs pour accroître ses bénéfices. Dans bon nombre d'entreprises, la production se redressa, mais avec moins d'ouvriers, et sans qu'il y ait nécessairement une modernisation des installations. C'est l'exploitation des travailleurs qui s'intensifia. Alors que le taux d'investissement était tombé au plus bas, le taux de profit se redressa et se stabilisa à un niveau record. Cette remontée du taux de profit n'entraîna pas un réel retour des investissements. Si de 1988 à aujourd'hui, les taux de profit ont toujours été nettement supérieurs à ce qu'ils étaient durant la période de l'après-guerre, le taux d'investissement a lui été au contraire systématiquement inférieur. Mais cette remontée des taux de profit a une conséquence. Elle a rendu les actions des entreprises alléchantes pour les investisseurs. Plus de profits, cela signifiait plus de dividendes versés aux actionnaires. Et le cours des actions s'envola à la bourse de New York, de Londres, mais aussi à Paris. Il n'est pas inutile de rappeler qu'en France, cette période de vaches très grasses pour les capitalistes et de potions amères pour les travailleurs fut inaugurée par un gouvernement de gauche. C'est à cette époque que, tout en faisant les louanges de la bourse, le gouvernement de gauche bloqua les salaires des travailleurs sous prétexte de combattre l'inflation. C'est aussi à cette époque qu'eurent lieu les nationalisations de Mitterrand, que certains réformistes aujourd'hui osent présenter comme des mesures en faveur des travailleurs. D'abord, ces nationalisations furent payées rubis sur l'ongle au patronat. Elles coûtèrent au total à l'État près de 40 milliards de francs. et les capitalistes concernés surent très bien investir ces milliards dans d'autres affaires. À l'image de la famille Devandel-Seyer, les anciens maîtres de la sidérurgie, qui avaient été rachetés en partie par l'État en pleine crise des années 70, et puis nationalisés complètement sous la gauche en 82, et qui fondèrent un fonds d'investissement et devinrent notamment actionnaires de l'équipementier Valeo ou de l'entreprise de services informatiques Capgemini. Et surtout, ces nationalisations ne furent au final qu'un petit détour pour renflouer avec l'argent de l'État des entreprises mal en point, licencier des dizaines de milliers de travailleurs, comme dans la sidérurgie, et faire remonter le taux de profit pour revendre ces entreprises bon marché aux capitalistes. Car les années 80 furent en réalité les années de privatisation. Pendant des années, la bourgeoisie avait développé ses affaires grâce au marché public que l'État lui procurait. Désormais, elle était à la recherche de placements pour ses capitaux. Alors, gouvernement de droite et gouvernement de gauche confondus lui offrirent sur un plateau les entreprises publiques rentables et le marché qui allait avec. Ce fut une vraie braderie aux entreprises publiques. Les banques et les assurances, avec la BNP, Paribas, la Société Générale, l'UAP, les AGF, le CIC, le Crédit Lyonnais, l'industrie chimique et l'industrie des matériaux avec Saint-Gobain, Rhône-Pulenc, la métallurgie avec Pechiney et Usinor, l'électronique et les télécommunications avec Thomson et l'ouverture au capital de France Télécom, l'aéronautique avec Air France, les compagnies d'autoroutes et aussi l'audiovisuel avec Canal+, TF1 et M6. La bourgeoisie frappa aussi du poing à la porte des États des pays du tiers-monde, pour que eux aussi privatisent. Leur dette, accumulée pendant les années précédentes, fut un bon argument pour les contraindre à vendre les quelques entreprises rentables sur lesquelles leur économie fragile s'appuyait. Le milliardaire français Bolloré, après avoir fait des juteux profits dans la papeterie, le papier à cigarette ou celui des composants électriques qui utilisent du papier très fin, acheta des entreprises en Afrique, entre autres au Cameroun. En 1999, il racheta la SNCF locale, devenue la Camrail, avec une concession d'exploitation pour 35 ans. Il récupéra aussi pour 30 ans la gestion du terminal à conteneurs du port autonome de Douala, le grand port camerounais par lequel transite l'essentiel des marchandises du pays et aussi les marchandises des pays voisins. Le transport des voyageurs n'intéressait pas Bolloré. Alors des morceaux de l'unique ligne de chemin de fer du pays furent fermés. Et le nombre de liaisons entre Douala, le port, et Yaoundé, la capitale, diminua. Le chiffre d'affaires du transport de marchandises, au contraire, lui, explosa, de 77% en 10 ans. En Amérique latine, la privatisation de l'eau fit les choux gras de ce qu'on appelle toujours là-bas les barons de l'eau. Des multinationales essentiellement françaises, comme Vivendi, futur Veolia, ou Suez, ou Bouygues, à travers la société La Sor, ainsi qu'une compagnie allemande, RWE, mirent la main sur la gestion de l'eau en Argentine, au Brésil, au Chili, en Colombie, en Bolivie. Tout fut facilité par la Banque mondiale, qui délivrait des prêts concernant la distribution de l'eau, mais imposait souvent en échange la privatisation. L'influence de Suez et de Vivendi fut telle que la distribution privée de l'eau fut souvent une condition de l'allègement de la dette des pays et de l'obtention de nouveaux prêts. Et dans bien des cas, les prêts octroyés sont allés directement dans les caisses des multinationales de l'eau. Les capitaux ont cherché à récupérer tout ce qui pouvait être source de profit, sans réellement investir dans la production, car ils mettaient la main sur des entreprises qui existaient déjà. Et la concentration du capital, c'est-à-dire la domination d'un nombre toujours plus réduit de grands groupes sur l'économie mondiale, ne fit que s'accentuer. Il y a quelques années, une étude relayée sans aucun complexe par des instituts patronaux, a révélé que le nombre de familles qui dominent l'économie s'était encore réduit. Alors que dans les années 30, on entendait parler en France des 200 familles, en référence aux 200 plus gros actionnaires de la Banque de France, au début des années 2000, 15 familles contrôlaient plus du tiers de toute la capitalisation de la Bourse de Paris. Alors, tout au long des 40 dernières années qui nous séparent des années 70, il y eut bien des investissements productifs, mais peu au regard des profits colossaux qui se sont accumulés. Dans des nouvelles branches comme l'informatique, les télécommunications, comme rien n'existait auparavant, les investissements sont indéniables. Tout comme il est indéniable que des sommes considérables sont allées s'investir dans certaines régions du monde, comme le sud-est asiatique ou la Chine. Quoique là aussi, ces capitaux ont su mettre la main ou profiter des entreprises publiques qui s'étaient constituées lors de la période précédente. Mais surtout, en ce qui concerne tous ces investissements, il est en réalité impossible de savoir quelle part a réellement été consacrée à la production et quelle part n'a été que de la spéculation. Mais je vous propose de parler de la spéculation après la pause.